Dimanche dernier, Louis et moi, nous étions à Mérignac pour soutenir l'implantation de l'Église. Et nous reprenons donc le texte qui se trouve en Éphésiens chapitre 6 et verset 18. Et nous sommes en train de nous entretenir sur l'importance de la prière. Je vous recommande le petit livre de Thoré, Comment prier, qui est un livre excellent. Et nous prions ce matin, s'il vous plaît, tout d'abord, notre Père, merci de ta présence et réconforte-nous. Merci de bénir ceux qui sont en voyage, en déplacement, ceux qui sont dans d'autres lieux ce matin, tu sais, là où ils se trouvent, merci de les encourager, merci de les fortifier, de les renouveler. Et merci de ta présence, ta fidélité, merci de ce que tu as vaincu l'ennemi par la puissance de ta résurrection. Tu as, Seigneur, eu la victoire sur la mort et celui qui avait la puissance de la mort et nous sommes en Christ. Merci, Seigneur, de ta fidélité. Et si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et nous nous réjouissons de ce que tu as fait dans nos vies, de ce que tu es en train de faire et de ce que tu feras encore. Merci de fortifier nos corps, nos âmes, nos esprits et que ce matin, nous puissions nous réjouir ensemble autour de ta parole. Amen. Alors que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous et je viens à vous un petit peu affaibli ce matin, mais je compte sur la présence du Seigneur. Alors Éphésiens 6, 18 dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. On a vu ici dans ce verset, quelque part, l'intensité de la prière. On voit ici que Paul dit « faites en tout temps ». C'est donc une prière constante. La Bible dit d'ailleurs en Thessaloniciens, priez sans cesse. Ensuite, il est écrit par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc, une prière inspirée de l'Esprit. Quelqu'un a dit, c'est la prière inspirée de l'Esprit que Dieu exauce. Et puis, toutes sortes de prières. On voit que c'est une prière ici qui est intense et qui touche tous les domaines de la vie et de supplication, veillez à cela. Ici, le Seigneur nous conduit à avoir une prière éveillée, avec une entière persévérance, encore le mot « entier ». Le cœur de Paul était donné tout entier dans la prière, et là on voit que son cœur persévère. Donc c'est une prière constante, faite par l'Esprit, pour toutes sortes de demandes, une prière éveillée, une prière persévérante et prier pour tous les saints, une prière pour tous les saints. Voyez-vous ici, souligné avec moi dans le texte, tout temps, toutes sortes, entière persévérance, tous les saints, et puis une prière victorieuse. Nous avons déjà parlé de l'importance de la prière la dernière fois, et on a déjà souligné ensemble que la prière est importante, tout d'abord, parce que le diable existe. La deuxième chose que nous avons soulignée, c'est que la prière est importante parce que reconnaissons que la cause secrète de toute lacune dans notre expérience de vie, de travail, de foyer, de vie familiale, se situe dans la négligence de la prière. Un manque parfois de la connaissance de la volonté de Dieu est dû à un manque de prière. Un troisième aspect que nous avions souligné, c'est que la prière est importante parce que les apôtres en ont fait une priorité. En Actes chapitre 6, il y a l'élection des diacres, et les apôtres disent, quant à nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service ou le ministère de la parole. Les apôtres en avaient fait une priorité, et on voit d'ailleurs dans la vie de l'apôtre Paul, on avait regardé ensemble combien l'apôtre Paul prend du temps dans sa vie pour prier. Ensuite, on a regardé, quatrièmement, parce qu'il y a 11 points, on en était rendu au quatrième, la prière est importante. La preuve, c'est qu'elle a occupé une grande partie du ministère de Jésus sur la terre. On a vu ensemble au moins deux exemples, combien Jésus prenait du temps à prier avant de grands événements et combien de temps Jésus priait après des grands événements. Et c'est vrai qu'il faut veiller, même après des grandes bénédictions, pour demeurer dans le Seigneur, à se réfugier en lui, à être renouvelé et à être gardé en lui. C'est parfois dans les moments de plus grande victoire, de sommet de l'Himalaya, que le Seigneur nous fait atteindre par sa puissance et la puissance de l'Esprit, que nous sommes parfois en plus grand danger d'affaiblissement ou de tentation de la part du diable. Ce matin, un autre point que j'aimerais souligner, en parlant toujours du Seigneur Jésus, c'est que la prière est importante parce que savez-vous que la prière aujourd'hui est un des plus grands ministères de Jésus ressuscité? On trouve cela, si vous voulez bien tourner avec moi, Hébreux chapitre 7 et verset 25. On peut lire dans le contexte à partir du verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, Hébreux 7, 23, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ça me rappelle, excusez une petite parenthèse, ma conversion, un soir dans ma chambre, alors que je n'étais pas sauvé encore. J'avais lu le livre de Charles Stutt, Champion de la foi, qui disait, qui parlait avec beaucoup de foi et de Hébreux chapitre 11, tous les héros de la foi, n'est-ce pas, étaient très encouragés. J'étais aussi interpellé par le chapitre 11, j'ai lu le chapitre 12, chapitre 13, et puis je me suis dit, tiens, c'est dommage, c'est fini. Et j'ai fait pour la première fois de ma vie une lecture à l'envers. J'ai lu chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5. Et j'ai été sauvé par les mots selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit étant très catholique, je croyais que pour être sauvé, il fallait plus pécher. Donc pour moi, être sauvé, c'était ne plus jamais pécher, donc être parfait. Je me disais, mais me connaissant, c'est impossible. Donc Dieu a eu la grâce de me faire lire l'Épître aux Hébreux, même si j'ai lu à l'envers, le Seigneur m'a mis à l'endroit. Et en fait, il m'a montré que Jésus-Christ avait un sacerdoce éternel, selon l'ordre de Melchisédek, un prêtre par excellence, qui n'a ni commencement ni fin, qui a un ministère éternel, et donc qui peut pardonner les péchés passés, présents et à venir. Et c'est ce que nous dit le texte ici, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est au moment où le diable nous accuse, lorsque nous avons péché, qu'il nous dit, voilà, tu te dis chrétien, regarde là où tu es, où il nous fait croire que Dieu ne peut pas nous pardonner, que nous pouvons nous réfugier dans ce ministère éternel de Jésus-Christ, un sacerdoce éternel, et il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, si nous le lui confessons, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder pour nous. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, on pourrait presque traduire ici éternellement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus, dans l'éternité, ressuscité, a un ministère d'intercession, non seulement pour ceux qui se tournent vers lui pour les sauver, mais aussi pour le croyant qui tombe et qui a besoin d'être relevé. D'ailleurs, c'est confirmé par la première épître de Jean, et j'espère que vous connaissez ce texte, parce que il est tellement merveilleux. La Bible nous dit en 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. » Alors que Jean vient de dire ici, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Dieu, au travers de Jean, s'adresse à des croyants, qui, il sait, sont des pécheurs. Ça ne veut pas dire parce que Dieu pardonne qu'il faut continuer de pécher. Donc, Jean nous exhorte afin que vous ne péchiez point, mes petits-enfants. C'est un terme affectif. C'est le cœur de Dieu. Mais en même temps, il dit, si quelqu'un a péché, tiens, c'est possible qu'un croyant pêche. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Le mot avocat ici, c'est le mot grec qui peut être traduit par consolateur. C'est l'Esprit Saint que Jésus devait envoyer lorsqu'il serait glorifié, que Jean nous parle en Jean 16, dont Jean nous parle en Jean 16, le consolateur, celui qui plaide en notre faveur, celui qui est à notre côté. Et la Bible dit que dans l'Apocalypse, le diable joue le rôle d'accusateur. Il est celui qui accuse les enfants de Dieu jour et nuit. Est-ce que vous croyez que le diable a de bonnes raisons d'accuser les enfants de Dieu? Oui, parce que nous sommes loin d'être parfaits. Mais il y a un avocat qui prend notre défense. Et à la différence d'un avocat qui prend la défense de quelqu'un et qui plaide, n'est-ce pas, en sa faveur, en essayant de le déclarer non coupable, Jésus, lui, intercepte, se met entre le diable, les accusations du diable et Dieu. Il dit, oui, mon enfant est coupable. Tiens, un avocat qui plaide coupable pour son client. Mais à cause de l'œuvre que j'ai accomplie à la croix, je suis son avocat. C'est notre avocat de la défense. Et savez-vous quoi? Une bonne nouvelle, il gagne toujours les procès. C'est merveilleux cela. Il n'a jamais perdu un procès. Et devant l'accusation du diable qui nous accuse jour et nuit devant Dieu, jour et nuit, Dieu, notre Père. Vous voyez ici, il n'est pas écrit notre Dieu, il est écrit auprès du Père. Et même la préposition ici, c'est extraordinaire, elle est comme un face-à-face. Jésus est face-à-face avec Dieu le Père. Et parce que nous avons donné la main à Jésus-Christ le Fils et que Dieu nous garde en sa main, nous sommes protégés par un avocat qui intercède pour nous jour et nuit. C'est extraordinaire. Jésus-Christ, homme, parfaitement homme, est devenu notre sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre qui a été donné, mais il est aussi notre intercesseur dans le ciel. Et nous oublions parfois cela face aux accusations du diable, face à nos chutes, que nous avons cet intercesseur qui est là pour nous donner une réconciliation permanente, même si nous péchons. Et même si notre relation peut être atteinte à cause de notre manquement, eh bien Dieu n'a pas changé, il nous voit en Christ, notre position en lui fait qu'on est pardonné et que Dieu est toujours notre Père. C'est ça qui est merveilleux. Nous avons cette garantie qu'enfant de Dieu, même si nous nous éloignons, si nous péchons, Jésus-Christ nous pardonne, Jésus-Christ plaide à notre faveur. Ça ne veut pas dire qu'on doit continuer de pécher, mais ça montre que nous sommes toujours enfants de Dieu. Parce qu'il plaide auprès du Père. Il n'est pas question de remettre en question notre affiliation. Dieu ne la remet pas en question. Mais Jésus-Christ plaide en notre faveur pour que notre relation soit maintenue avec Dieu le Père. Vous n'avez jamais été à tel point découragé, vous êtes demandé, mais est-ce que je peux être en communion avec Dieu à nouveau? Est-ce qu'il est possible que Dieu me pardonne? Oui. Il est toujours possible que Dieu pardonne, il est toujours possible de revenir vers Dieu, mais nous devons croire que Jésus-Christ est là comme un intermédiaire, un intercesseur auprès de nous. Si nous regardons Romains chapitre 8, nous avons aussi cet aspect de l'intercession, non seulement du Fils dans l'éternité, mais vous avez compris là où je veux en venir, mais aussi du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous habite, par lequel nous avons été scellés, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Non seulement Jésus-Christ intercède, mais un des rôles principaux du Saint-Esprit dans nos vies maintenant, nous qui sommes régénérés, c'est d'intercéder au travers de nous. Et c'est incroyable quand nous venons à la réunion de prière, n'est-ce pas? Moi, parfois, je suis frappé à un moment donné, j'ai comme à cœur de prier quelque chose, et puis c'est juste un frère, une sœur qui commence à prier exactement au sujet du fardeau que je suis en train de ressentir. Je me dis, mais c'est bien la preuve qu'on est unis ensemble, que Dieu est en train d'agir. Et puis parfois, parce que nous sommes faibles, nous ne savons plus comment prier, nous ne savons même plus comment nous adresser à Dieu. Et lorsqu'on s'humilie devant Dieu et qu'on demande à Dieu de nous aider à prier, c'est incroyable ce que le Saint-Esprit peut faire en nous. Christ intercède et c'est sa principale occupation. J'aimerais vous poser une question. Le sujet, c'est la prière est-elle importante pour nous, pour toi? Si Christ a passé tellement de temps sur la terre à prier, pour être complètement dépendant de Dieu le Père. Si dans l'éternité, il ne cesse d'intercéder pour nous, ses enfants, est-ce que nous ne sommes pas appelés aussi à avoir un tel ministère? Vous savez, parfois on dit, oui, mais lui, il est évangéliste dans l'Église. Il a ce don. Moi, dans la Bible, je n'ai jamais vu le don d'évangéliser. Oh, Dieu donne et des dons donnent d'évangélistes dans des ministères particuliers. Mais je crois fermement, suivant les dons, les talents, la personnalité de chacun, que nous sommes tous appelés à évangéliser. C'est clair dans la Bible. Mais c'est pareil pour la prière. Ah oui, elle ou lui, c'est un homme de prière, c'est un homme de foi. C'est vrai qu'il y a le don de la foi. Mais vous avez remarqué dans la Bible, il n'est jamais dit qu'il y a le don de la prière. Pourquoi ? Parce que c'est donné à tout le monde. Tout le monde est appelé à prier. Nous sommes tous appelés à intercéder. C'est même le ministère principal. Il y aura peut-être des hommes et des femmes qui auront été vus dans le milieu chrétien ou dans l'Église, qui auront été peut-être plus honorés que d'autres. Mais dans le ciel, on sera bien étonné que le frère ou la sœur qui a fermé la porte de sa chambre et qui a prié fidèlement sera d'autant plus honoré et glorifié en Jésus-Christ. Il y a eu des réveils qui sont nés parce que des hommes et des femmes se sont mis à genoux dans le secret de leur chambre et ont intercédé jusqu'à ce que le réveil vienne. Certainement, leur peur sera grande. Le réveil vient lorsque le peuple de Dieu, oui, on l'a chanté tout à l'heure, merci Étienne d'avoir choisi ce chant, lorsque le peuple de Dieu s'humilie, confesse son péché, cherche la face de Dieu. Ce ministère de la prière est important, n'est-ce pas? Parce qu'il est important pour le Seigneur Jésus-Christ. La sixième raison pour laquelle la prière est importante, c'est le moyen établi par Dieu pour nous permettre d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans tous nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Si vous voulez bien tourner en Hébreux, chapitre 4, verset 16. Lisons verset 14, si vous voulez bien. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. On pourrait traduire ici, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je ne sais pas vous, mais avec les années, il y a quelques personnes ici, je pense, qui pourraient en parler aussi. Avec les années, je me suis aperçu que j'avais besoin de découvrir ce que c'était que vivre dans la grâce. Quelqu'un a dit une fois, j'ai lu 60 fois la Bible et je n'ai mis les pieds qu'au bord d'un océan. Et j'ai l'impression qu'au sujet de la grâce, nous avons encore toujours et encore tout à apprendre. Vivre dans la grâce, ce don immérité de Jésus-Christ, ce don parfait de Dieu le Père. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Je ne sais pas, des fois on entend des prières, puis peut-être on a des prières toutes faites, on parle du trône de la grâce. Mais est-ce qu'on réalise que le trône de la grâce, c'est le trône du siège de la toute-puissance de Dieu, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent? Quand on parle de la grâce, c'est Dieu lui-même. Le trône de la grâce, c'est là où il siège. Donc sa grâce est infinie, on le chante, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parce que nous avons des besoins. Vous avez déjà fait la liste de vos besoins? Moi, des fois, quand je suis un peu découragé, je vous l'avoue, que je vois une multitude de besoins autour de moi, ou pour mes besoins personnels, ou familiaux, ou même l'Église, alors on peut dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Alors j'aime bien faire une liste et déposer cela au pied de la croix. Avoir la foi, parce que je prie, quelque chose va se passer. Il y a à peu près 5 ans, alors que j'étais en voyage au Canada, à Québec, vous savez que je suis assez souvent, au moins une fois par an, invité là-bas. Sauf cette année, bon, finalement, je n'ai pas pu y aller pour différentes raisons. Et j'ai rencontré une famille, un frère qui est responsable du comité missionnaire d'une assez grande église au Québec. Et alors je le visite et on a sympathisé, fraternisé. Et tout d'un coup, je réalise, ce frère n'a pas de travail. Un ingénieur, agronome, qui arrive d'Afrique, plus de travail. 50 et quelques années, impossible de trouver du travail. Sa femme malade, découragée, non seulement d'une maladie chronique, tellement découragée qu'elle déprime. Ses enfants en difficulté. Et quand il me donne la liste de ses besoins et fardeaux, je me dis, waouh. Quelque part, je me suis dit, ouais, il y en a qui ont vraiment des fardeaux dans la vie. Et je me souviens qu'on a prié, et puis j'ai eu l'occasion, même au téléphone, de le recontacter, etc. Et puis tout récemment, je l'appelle pour lui dire que je n'irai pas au Québec cette année, que je ne le rencontrerai pas, et je tombe sur son épouse, qui me garde, tenez-vous bien, 3 quarts d'heure au téléphone. Et je n'ai fait qu'écouter. C'est bon quand Michel ne fait qu'écouter, hein, parce qu'il a tendance à parler. Mais c'est bon d'écouter les autres. 3 quarts d'heure, 3 quarts d'heure. J'ai entendu cette sœur, mais c'était le ciel sur la terre. Tous les problèmes de cette famille avaient disparu. Lui a trouvé un travail, ses enfants ont réussi leurs études, ils ont trouvé chacun leur travail. Cette dame a été guérie par le Seigneur. Et elle me contait tous les bienfaits de Dieu, tout ce dont on avait prié, placé devant Dieu. Tous ces besoins, ils ont trouvé grâce dans le cœur de Dieu. Alors parfois, lorsque nous prions et que nous trouvons qu'on est dans un impasse, mais où est notre Dieu? Que fait-il? Il écoute notre prière et en son temps, il répond. Mais nous sommes tellement impatients. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quelqu'un a dit, je suis impatient de devenir patient. On est tellement impatient. Et Dieu permet dans nos vies que nous soyons éprouvés. Parce que c'est notre foi qui est éprouvée pour que nous puissions nous attendre à Dieu. Parce qu'il y a toute une gloire qui revient à Dieu lorsqu'on sait que c'est lui qui pourvoit. Quelqu'un a dit, c'est facile à louer Dieu, à remercier Dieu pour chaque repas quand le frigo est rempli. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il est vide? Je me souviens une fois, ma femme et moi, nous étions à Québec. Un dimanche soir, on venait juste d'arriver à Québec. Et vraiment, pour dire la vérité, nous n'avions rien. Nous n'avions rien. Et on nous avait donné, les uns et les autres, dans l'église où nous avions commencé le ministère, des choses. On a invité une missionnaire de la Suisse qui était bien contente de trouver des Européens au Québec. Alors on a passé une belle soirée, puis évidemment, la soirée était agréable. On l'a invité à manger. Donc, Louise me fait un clin d'œil, on se comprend. Il n'y avait pratiquement plus rien à manger dans la maison. Donc, on a ouvert le frigo. Et discrètement, Louis a sorti à peu près tout ce qu'il y avait, et puis nous l'avons invité à manger. Et on n'a rien dit. Et on est partis ensemble, elle est partie, on a terminé dans la prière, en louant le Seigneur, et puis on a remis différentes choses au Seigneur. Savez-vous quoi, que le lendemain matin, alors on ne sait pas si c'est cette sœur, on ne sait pas d'où c'est venu, on a eu 2 sacs d'épicerie, haut comme ça, en face de la porte. Demandez, vous recevrez. Je me souviens, l'épouse d'un pasteur bien-aimé à Québec. Alors là, c'est une histoire incroyable. Noël arrive, la famille allait se réunir et ils n'avaient pas les moyens de faire des cadeaux ni même de préparer des bons repas pour la famille. Alors cette épouse de pasteur a pris une liste et elle a écrit tout ce dont elle avait besoin. Tout ce dont elle avait besoin pour Noël. Et savez-vous quoi? Miracle après miracle. Dieu lui a accordé tout ce qu'elle a demandé. Tout! Il y a l'histoire d'une petite fille un jour qui avait entendu à l'école d'image que Dieu guérissait. Et elle fait du sport, c'est pas une activité, elle se fout de la cheville. Et savez-vous quoi? Dans la simplicité de son cœur, elle a demandé à Jésus, alors qu'elle était âgée juste de quelques années, de la guérir, et Dieu l'a guérie comme ça. Il faut croire, chers amis. Savez-vous quoi? On est un peuple, malheureusement, bien souvent incrédule. Et nous ne prêchons pas assez souvent ce péché. Et moi, le premier, je confesse devant mon Dieu que je manque de foi. L'incrédulité est un péché commun aux enfants de Dieu. Or, bien sûr, nous avons la foi, mais reconnaissons que nous avons un manquement souvent lié à notre manque de foi. Il y a parfois, sans jeu de mots, des gens qui nous étonnent par la simplicité de leur foi et qui croient vraiment en un Dieu. Je me souviens, alors que j'étais à l'école biblique, il y avait une jeune fille qui priait avec beaucoup de foi, parce que le directeur de l'école biblique demandait à prier, parce que les finances étaient vraiment serrées, puis c'était un gros montant d'argent. Elle priait de tout son cœur, puis « Seigneur, pourvois !» Puis elle va voir le directeur et dit « J'ai la foi, frère, le Seigneur va pourvoir. » Bon, merci, il t'a encouragé. Puis elle-même, un jour, elle lui manquait juste un petit peu quelque chose, puis là, elle tremblait. Elle était tout à fait paniquée parce qu'il lui manquait juste un petit peu pour vivre. Alors le directeur a dit, mais il me semble que tu as prié l'autre jour pour une somme, c'était très important. Et maintenant tu doutes pour juste la petite somme dont tu as besoin. Vous savez, Dieu nous teste constamment. Chaque jour, quand nous nous levons, Dieu a un chemin de foi sur lequel il veut nous tester, que nous allons emprunter. Parce que la vie est faite de toutes sortes de choses où nous avons vraiment besoin d'être comblés. J'aime beaucoup prêcher, vous le savez, le psaume 23. Et notamment le psaume 23, verset 1. Un jour, Dieu me l'a mis tellement à cœur, et je crois qu'il me l'a enseigné en tout cas d'une certaine manière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, celui qui voit le passé, le présent et l'avenir, celui qui a affaire avec le temps. Et mon berger, j'ai une relation de brebis à berger. C'est extraordinaire cela. Je ne manquerai de rien. Oui, j'ai des besoins matériels, j'ai des besoins physiques, j'ai des besoins spirituels. Et j'ai cette promesse parce que je suis une brebis du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais nous devons le vivre cela. Alors peut-être juste à l'instant, vous pensez à quelque chose. Eh bien, gloire à Dieu. Remettez-le entre les mains du Seigneur et croyez que vous allez être secouru. Peut-être pas de la façon dont vous avez pensé, organisé, la façon dont vous avez voulu contrôler votre vie, parce que c'est la tentation de chacun de nous. Mais Dieu a une réponse. Thoré, dans son livre, j'ai tiré cela de son livre, il dit « Nous ne connaissons pour la plupart que de petits ruisseaux de miséricorde et de grâce, tandis que nous pourrions en connaître des fleuves débordants. » Le filon de la prière est rempli de joyaux précieux qui vont compter pour l'éternité. Et combien de temps nous passons à côté de ce filon qui, lui, va rester jusque dans l'éternité. Prions pour ça. Septièmement, je pense que ça va être le dernier point ce matin, la prière au nom de Jésus-Christ est le moyen que Jésus-Christ lui-même a établi pour que ses disciples obtiennent la plénitude de la joie. Regardez cela avec moi en Jean 16, verset 24. Jean 16 et verset 24. Verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Le but de la prière n'est pas la joie en soi, mais le but de la prière, c'est de voir Dieu exaucé à cause de notre foi, à cause basée sur les promesses de la parole de Dieu, ce qui fait que nous avons la joie de voir l'exaucement de la prière. Il n'y a pas de plus grande joie, n'est-ce pas, que de voir Dieu agir. Il y a d'abondantes joies devant ta face, dit le psalmiste. Et par exemple, si on va en Jean 14, versets 13 et 14, je le lis. « Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Alors, vous avez jamais entendu des gens, et c'est pas mal de dire au nom de Jésus-Christ à la fin d'une prière. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une garantie que Dieu va exaucer cette prière, parce qu'on met au fond de la prière, au bout de la prière, au nom de Jésus-Christ. Si on le dit, alors on doit le dire par la foi, parce qu'on le dit au nom de Jésus-Christ, ce qu'il représente. D'abord qu'il est notre sauveur, notre intercesseur, notre intermédiaire entre Dieu le Père et nous, et celui qui accomplit sa parfaite justice. Il est l'avocat, le juste. Non seulement il est parfait, et donc son œuvre est parfaite, et Dieu nous voit parfaits au travers de son œuvre, Mais il est celui qui nous a justifiés. Et lorsqu'on vient auprès de Dieu le Père dans un même esprit, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas notre propre nom. Nous ne venons pas parce que nous avons bien prié aujourd'hui, parce qu'on a bien lu la Bible, parce qu'on a fait telle œuvre, Non, ça ne compte pas, n'est-ce pas? Nous venons à Dieu parce que nous sommes faibles. Nous venons à Dieu parce que nous sommes ses enfants régénérés, purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et lorsque nous disons que nous venons au nom de Jésus-Christ, nous confessons notre état de pécheur. Nous confessons notre état de dépendance envers Jésus-Christ et du pardon qu'il nous a accordé. Donc gardons-nous, n'est-ce pas, de venir avec légèreté et de dire au nom de Jésus-Christ comme si Dieu nous devait un dû. Mais nous pouvons venir à lui en son nom parce qu'il nous l'a promis de nous exaucer. Je ne sais pas vous, mais il y a un texte qui, en tout cas, moi me bouleverse. Je vous termine avec cela. Il est écrit, nous avons auprès de lui, encore auprès, c'est une préposition très forte dans le grec, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On a regardé tout à l'heure que quand on demande en son nom qu'il nous exauce, c'est la gloire de Dieu qui vient. Donc si notre prière n'est pas pour la gloire de Dieu, Dieu n'exauce pas. Si notre prière n'est pas pour que sa volonté ou selon sa volonté, Dieu ne nous exauce pas. Mais c'est écrit, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous avez déjà été saisi à un moment donné par cette pensée qu'au moment où vous priez, Dieu vous exauce? Que vous avez cette assurance que Dieu ne peut pas vous refuser ce que vous êtes en train de demander? Vous savez pourquoi parfois nous ne nous réunissons pas assez nombreux ou ne prions pas assez chez nous ou dans nos réunions? C'est parce que nous ne croyons pas que Dieu exauce la prière. Quand on vient au nom de Jésus, nous devons venir avec cette assurance, par la foi. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'assurance, parce que Christ est celui qui a fait le lien entre nous et Dieu le Père. Et nous pouvons avoir cette assurance. Alors si vous avez un père ou une mère, un frère ou une sœur, un parent, un voisin, qui n'est pas sauvé, mais allez vous mettre à genoux, priez jusqu'à ce que vous obteniez. Parce que Christ nous fait entrer dans les lieux très saints à cause du sang qui a été présenté un jour dans les tabernacles éternels, son sacrifice à Dieu le Père. Par ce chemin de la rédemption, nous avons un accès auprès du Père. Si votre fils vient vous voir, vous demander quelque chose en tant que père, est-ce que vous allez lui accorder, si c'est raisonnable? Et Dieu n'est-il pas tout puissant pour nous exaucer? Ce matin, Dieu nous a montré qu'il est important de prier parce que Jésus, même ressuscité, a un ministère éternel d'intercesseur. Dieu nous a montré qu'il est important de prier parce qu'il veut combler nos besoins. Et reconnaissons que parfois, nous ne prions pas assez. Comme a dit quelqu'un, vaut mieux passer une nuit en prière que de multiples nuits d'insomnie. Et c'est vrai cela, tellement nous avons de soucis ou de difficultés. Et Dieu nous demande de prier au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci d'avoir placé devant nous ces trois points ce matin de l'importance de la prière. Nous confessons en tant qu'individu, en tant qu'Église, que nous avons besoin, et encore et toujours, d'apprendre à intercéder, de faire de la prière une priorité dans nos vies. Et je prie, Père, malgré peut-être la faiblesse ce matin de chacun de nous, que tu nous visites, que tu nous fasses réaliser l'importance de la prière dans nos vies. Amen.